Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer.
Attends, Laurent, quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi? C'est à cause des pénuries, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
J'ai pas les détails, mais c'est tout le système qui risque de se casser la gueule.
La seule loi ici, c'est la loi du marché.
C'est maintenant.
Se préparer au pire pour être sûr de l'éviter. Tel est le credo de l'effondrement. Sidérante série télé diffusée en novembre sur Canal+, est créée par un trio d'auteurs-réalisateurs trentenaires, Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins et Bastien Huguetto, tête pensante du collectif Les Parasites, qui depuis 2013 multiplie courts-métrages et documentaires alliant convictions politiques et sciences du spectacle, comme d'habiles cousins do-it-yourself des angoisses spéculatives de Black Mirror. Sur l'écran de l'effondrement, la France s'écroule peu à peu, inexorablement, en 8 chapitres pré-apocalyptiques tournés en quasi-plan séquence de 15 à 25 minutes, chaque épisode étant centré sur un lieu susceptible d'éclairer l'avancée semaine après semaine de la catastrophe en cours. Un supermarché au rayon bientôt vide, une station-service débordée par une émeute, un hameau agricole fondé sur l'entraide, une maison de retraite ou les abords surveillés d'une île sanctuaire réservée aux ultra-riches. Zone traversée par les corps inquiets, errants, dépassés, les acteurs Lubna Azabal, Philippe Rebaud, Yannick Chouara ou Thibaut de Montalembert. Mais quelles sont les sources textuelles de cet implacable récit du désastre qui pourrait advenir juste après le point de non-retour, malgré les divers lanceurs d'alerte enlisés que nous sommes, trop souvent, dans notre propre déni? Qu'ont-ils lu, ces trois-là, pour en arriver là, outre les travaux des chercheurs et collapsologues français Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, à travers les ouvrages très populaires de ces derniers, intitulés « Comment tout peut s'effondrer » en 2015, « L'entraide » en 2017 ou « Une autre fin du monde est possible » publié, celui-ci, en 2018. En compagnie de Bastien Huguetto et Guillaume Desjardins, soit deux tiers de ses fils des Fils de l'Homme, ce prodigieux thriller d'anticipation sur une humanité stérile réalisé en 2006 par Alfonso Cuarón, référence revendiquée des showrunners, nous remonterons jusqu'aux classiques post-apocalyptiques hexagonaux Ravage de René Barjavel, Malville de Robert Merle, tout en étudiant de près un essai à paraître le 5 mars aux éditions du Seuil, Génération collapsonaute, naviguée par temps d'effondrement, signé Yves Citon et Jacopo Rasmi. La fin est proche, et pourtant, les choses ne font que commencer. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez chaque dimanche de 12h. À 13h. Bonjour Bastien Huguetto.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Desjardins.
Bonjour.
Comment commence votre fin du monde? Quelle est l'étincelle qui vous a donné envie, dans le prolongement de vos courts-métrages visibles en ligne avec Jérémy Bernard et votre collectif Les Parasites, de créer une série sur l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle? Qu'est-ce qui vous amène à vous dire, allez, on y va, pour les deux prochaines années, on écrit ça?
C'est surtout qu'on avait envie, nous, de voir une série qui parle de ça, une série de fiction qui raconte ça, parce qu'on a été vachement nourri par des interviews qu'on a pu mener ou qu'on a écouté ou des livres qu'on a lus. On a été sensibilisés à tous ces sujets et on avait... Ouais, je pense qu'on a écrit la série qu'on avait envie de voir. En tout cas, on a essayé.
Oui, et au-delà du propos aussi, parce que
Bastien,
on est très fanat du genre post-apocalyptique, parce qu'on a été baigné dedans depuis qu'on est petit, que ce soit les Mad Max, La Route, même des films plus français. J'ai oublié ce film avec Amalric.
Et Les Derniers Jours du Monde.
Les Derniers Jours du Monde, exactement. Enfin, tu vois, c'est un peu ces univers-là. qu'on aime bien, sauf qu'on avait envie de le traiter d'une manière plus proche du réel, plus proche de nous, qu'on puisse s'identifier, que ce soit de faire un peu le contre-pied justement de Mad Max Fury Road, ce genre de films qui sont trop lointains, qui sont pas réalistes en fait par rapport au monde tel qu'on imagine qu'il va s'effondrer. L'idée c'était de faire une série déjà qui nous plaise, que ce soit un bel objet cinématographique, parce qu'avant tout ce qu'on aime c'est faire des films, raconter des histoires. Donc on avait envie de faire ça et aussi du coup de parler de ce sujet, donc de l'effondrement de notre société, parce que c'est quelque chose, comme disait Guillaume, qui nous inquiète depuis longtemps.
Dans une précédente interview, Bastien, vous avez laissé entendre que l'idée de la série, par ses moyens, les moyens qu'elle déploie, était aussi de mettre une claque aux sceptiques.
Aux sceptiques, non, je ne sais pas, c'était plus de participer à une prise de conscience générale, mais... C'est vrai que c'était un peu l'idée, que les gens puissent s'identifier pour qu'ils aient envie de réagir et de pas que ça leur arrive dans la vraie vie. Il y a plein de gens qui réalisent pas en fait la gravité de la situation à l'échelle planétaire. Donc oui, on avait envie de toucher tout le monde. Moi-même, à l'intérieur de ma famille et de ma famille très proche et de gens jeunes, je me rends compte que tout le monde finalement n'a pas cette prise de conscience. Enfin, il suffit aussi de sortir dans la rue pour voir les comportements des gens, où est-ce qu'ils consomment, leur façon de consommer. Enfin, je veux dire, les faits parlent de même. Si tout le monde était aussi effrayé que nous le sommes de la situation actuelle, en fait, tout le monde serait peut-être végétarien, essaierait de réduire ses déchets au maximum, ferait du vélo. Enfin, voudrait vraiment changer radicalement de vie pour essayer de changer les choses, mais c'est pas du tout le cas.
J'ai l'impression qu'il y a une espèce de confiance dans les institutions qui du coup nous déresponsabilise de tout, et c'est assez étonnant par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et l'information elle circule quand même par des canaux différents qu'avant, et du coup c'est, moi je trouve ça encore étonnant qu'on croit encore que la technologie va nous sauver, que le réchauffement climatique c'est pas si grave, Ouais, je sais pas si... J'espère qu'ils ont raison, et en même temps...
Il est probable qu'ils aient tort.
Il est probable qu'ils aient tort, et du coup, est-ce qu'il faut pas se préparer au pire pour être sûr de l'éviter, plutôt que se dire, oui, ça ira.
C'est tout l'intérêt d'une série comme la vôtre. Alors, dans l'effondrement, votre effondrement n'a pas de cause explicite, mais on comprend qu'il est le résultat de causes multiples. Et comme cette émission est une émission littéraire, j'aimerais connaître vos différentes sources d'inspiration pour cette création, en classant ces sources, s'il vous plaît, en deux catégories. D'un côté, les essais, les articles, les rapports, les conférences, bref, le réel. Et de l'autre, les romans, la fiction, l'apocalypse fantasmée, qui est un sujet très riche pour les écrivains, et cela depuis des siècles. Alors, d'une part, donc, quelle a été votre documentation en ce qui concerne le réel? Quels penseurs, essayistes, philosophes vous ont inspiré?
Le premier, ça a été Jacques Blamont. En fait, quand on a eu l'idée de la série, on a provoqué un déjeuner avec Jacques Blamont, qui est, je crois, si je ne me trompe pas, le fondateur ou un des cofondateurs du programme spatial français, et qui a écrit deux livres il y a plus de... Je vais dire n'importe quoi, donc il y a peut-être 15-20 ans, il y a 10 ans, en tout cas minimum 10 ans. Il a écrit un livre qui s'appelle Introduction au siècle des menaces, et un autre qui s'appelle, je crois... proposition pour un autre futur de l'humanité, ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui a les chiffres en tête depuis très longtemps, qui a le point de vue scientifique depuis longtemps, qui voit les courbes qui sont toutes exponentielles, et il a une vision très très noire de ce qui nous attend. Et d'ailleurs, ouais, c'était la première... tu disais quelle serait la... Enfin, on n'a pas vraiment identifié, nous, de cause dans la série, et pourtant, ça a été la première recherche qu'on a fait quand on a voulu écrire, c'est OK, pourquoi l'effondrement, pourquoi ça s'effondrerait, comment, et on lui a posé la question, et en fait ces scénarios étaient hyper flippants. Ouais. Lui, il voyait vraiment les conflits géopolitiques, donc les guerres, les famines, les armes bactériologiques, les incidents nucléaires, enfin voilà, c'était les deux, trois grands trucs qu'il nous a cités. Et donc ouais, c'était la première source de nourriture pour écrire.
Comment vous tombez sur son travail, à lui ?
Bon, Jacques Blamont sur Internet, il y a des interviews de lui, entre autres sur Thinkerview, mais sinon oui, sur...
Oui, je précise au passage que c'est un monsieur qui doit avoir 95-96 ans aujourd'hui, donc qui a aussi le background de toute sa vie pour avoir cet avis critique sur le monde, quoi.
Après cet entretien, comment vous avez continué à vous renseigner sur la question ?
On a lu des livres. Il y a les travaux, bien sûr, de Pablo Servigne, qu'on a déjà beaucoup cité, mais qui nous ont vraiment inspirés, notamment son livre, bien sûr, « Comment tout peut s'effondrer ».
Je rappelle que Pablo Servigne a une formation d'agronome puis de zoologue et que cet ouvrage a un retentissement extraordinaire en France et peut-être même ailleurs d'ailleurs. C'est l'ouvrage que vous venez de citer et celui qu'il a écrit ensuite avec...
L'Entraide, ouais. L'autre loin de la jungle.
Oui, ouais, voilà. Enfin, en ce moment, ça a une notoriété qui grandit de plus en plus ces dernières années.
Pardon. Et puis il y avait aussi Philippe Biwix qui a écrit L'âge des low-techs. Qui parle, lui, en fait, de toutes les solutions. Il est très concret dans qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles règles, quel fonctionnement on peut adopter, mais à l'échelle d'un pays, pour justement ralentir notre production de déchets et d'énergie qui nous emmène à notre propre perte.
Bon, chacun lit ce qu'il a envie de lire, on s'en parle. C'est arrivé qu'on se cite, qu'on se lise des passages ou qu'on se les recommande à la lecture. Mais non, c'est pas vraiment chargé de tout lire, tout regarder sur la question.
Et même des articles qu'on a vu passer sur Internet, sur des journaux en ligne, qui nous ont inspirés par exemple pour l'épisode 3 et 7, où on suit des ultra-riches qui se sauvent. Ça a été inspiré par des articles qu'on a lus. Ouais.
Des articles qui, par exemple, permettraient à des gens d'acheter des places dans des bunkers qui seraient les plus éloignés des zones qui seraient éventuellement menacées par la future montée des eaux.
Exactement.
Ouais, oui.
Je me souviens d'un article dans Le Monde, justement, qui parlait de hauts dirigeants, un peu de la Silicon Valley, qui commençaient à investir en Nouvelle-Zélande, beaucoup à acheter des terres, qui cherchaient d'autres à acquérir la nationalité, justement, pour se faire construire des abris, en fait, pour préparer l'effondrement, vu qu'ils en ont les moyens, qu'ils ont les connaissances et qu'ils savent qu'il y a des vrais risques. Parce que la Nouvelle-Zélande, il faut savoir que c'est le pays qui est considéré comme le plus sûr cas d'effondrement du système, en tout cas thermo-industriel, dans lequel on vit, quoi. En tout cas, pour faire vivre une population nombreuse de plusieurs millions d'habitants en circuit fermé à l'échelle de l'île, c'est possible là-bas. Parce que le pays est isolé, en fait. C'est un pays tempéré, isolé, avec une population réduite qui est déjà développée, qui a beaucoup de connaissances, de technologies. Enfin, c'est pour toutes ces raisons-là.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Allô ?
Ah, monsieur le Maestre, enfin. Écoutez-moi bien, vous devez absolument être à l'aérodrome de Saint-Rémy dans 16 minutes.
Quoi, mais attendez, mais il est quelle heure, là ?
8h34. Ça fait 3 heures que nous essayons de vous joindre, vous et votre femme, pour vous évacuer.
C'est un entraînement, c'est ça ?
Non, monsieur. La procédure a été lancée dans la nuit.
Mais vous êtes sûr ?
Oui, tous nos indices sont dans le rouge. En fait, nous avons déjà trop attendu.
Quand est-ce qu'il part, votre avion ?
Dans 15 minutes, maintenant.
Non, attendez, c'est pas possible. La femme n'est pas là, elle est en déplacement.
Téléphone est localisé chez vous.
Oui, elle l'a laissé ici. Elle rentre demain, on doit décaler notre départ.
Je suis désolé, monsieur, mais il n'y aura pas d'autre avion. Il partira sans vous si vous n'y êtes pas à temps.
Et comment je fais, moi, avec ma femme ?
Je suis désolé, monsieur, elle aurait dû avoir son téléphone sur elle.
Bon, passez-moi votre responsable.
Je suis l'unique responsable de l'évacuation de votre secteur, monsieur Demarest.
Comment vous appelez ?
Paul.
Écoutez-moi bien, Paul. Si je ne suis pas dans cet avion avec le prix que j'ai payé, je vous garantis que mes avocats vont s'occuper de vous.
Vous perdez du temps, monsieur.
Dites au pilote que je serai là dans une demi-heure.
Non, quelqu'un d'important fait partie de cette extraction, nous ne prendrons aucun risque. L'avion partira dans 15 minutes. N'oubliez pas votre puce.
J'y serai.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'histoires ou de faits frappants glanés parmi vos lectures qui se sont retrouvés exactement comme celle-ci, à l'écran, qui ont donné lieu à des scènes, qui ont donné lieu à une caractérisation des personnages, à une situation dramatique que vous avez par la suite exploitée.
Moi, je pense à l'épisode du hameau, où en fait, c'est plus dans les réflexions assez premières qu'on a.
Où l'on voit ce qu'on pourrait qualifier de migrants post-apocalyptiques qui essayent de s'entraider et de s'organiser pour...
Oui, moi, j'appellerais ça des gens qui sont en exode, qui fuient les villes et qui rejoignent justement des gens qui se sont préparés et qui ont fait leur rameau pour essayer d'être le plus autosuffisant possible. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce que ouais, c'est les réflexions qu'on a, nous, quand on traite de tous ces sujets qui font peur, de se dire, mais alors, il faudrait être prêt, il faudrait pouvoir être autonome en nourriture et tout. Et de se dire, mais même si nous, on l'est, qu'est-ce qui se passe le jour où tout se casse la gueule et que tous les gens qui ne sont pas prêts se réfugient chez, justement, le peu de personnes qui se sont préparées. C'est pas possible, on ne pourra pas nourrir tout le monde avec quelques fermes, quoi. Et du coup, voilà, ça fait naître cette histoire.
Has Ended. Cette grande chanson post-apocalyptique signée Thom Yorke, sans Radiohead, perdue dans le brouillard synthétique de la BO du remake de Suspiria en 2019. Je n'ai pas encore réussi à écouter en entier ce double album lugubre, mais cette balade étrangement pleine d'espoir dans une ville en ruine a de quoi hanter, notamment par ses paroles, condensées d'obsessions contemporaines à la fin de la guerre, des sorcières chantent et même les fascistes ont honte de leur roi pantin, l'eau est devenue grise, les téléphones ont pris feu et les gens répètent, nous ne ferons pas deux fois la même erreur.
Nova Book Box, particulièrement élémentaire.
Je suis toujours en compagnie de Bastien Huguetto et Guillaume Desjardins, scénaristes et réalisateurs avec leur compère Jérémy Bernard, de leur série télévisée L'Effondrement, 8 épisodes en plan séquence, avec laquelle ils nous parlent d'un futur immédiat qui s'écroule de toutes parts. Le délabrement en cours de notre civilisation capitaliste, la pollution perpétuelle, l'épuisement des ressources, dont les échos résonnent, bien sûr, à l'intérieur d'eux-mêmes.
On parle de notre propre déni, en fait, dedans. Puisque nous, c'est vrai qu'on est conscients de tous ces sujets-là, mais on continue d'habiter à Paris, qui est quand même une grande mégalopole. Qui vit en circuit, en flux tendu, en fait.
Continuer à manger de la viande ?
Non.
Ni l'un ni l'autre.
Non. Okay. Ça fait des années, Jérémy non plus.
Okay.
Ça fait des années, oui, qu'on est végétarien. Enfin, on essaie de limiter notre impact du mieux qu'on peut. Mais après, c'est pour d'autres raisons aussi. C'est la cause animale qui rejoint pas forcément le sujet de l'effondrement, mais
peut-être que si. Qui est en lien. C'est drôle parce que Jacques Blamont, qu'on s'est inspiré aussi pour notre épisode 8, pour lui, c'était une des grosses façons de ralentir tout ça. C'était que justement les populations deviennent de plus en plus végétariennes. Et il a été voir, il a essayé de séduire les religieux pour qu'ils convertissent leurs fidèles au végétarisme.
Ah oui.
Ouais.
Et on le retrouve dans le dernier épisode de notre série, dans l'émission où on a du coup ce personnage qui s'appelle Jacques Montblat, qui donc.
Clin d'œil.
Un clin d'œil à Jacques Blamont, un gros clin d'œil assez évident, qui est allé justement, c'est les chroniqueurs qui fouinent, comme ils disent dans l'émission, qui est allé essayer de convaincre le pape de convertir l'église au végétarisme.
Donc, ouais.
Mais parce que oui, c'est vrai que la consommation de viande dans le monde, je crois que c'est 60% des émissions de CO2 entre le transport, l'élevage du bétail.
Je sais pas si c'est autant, mais en tout cas, tu confonds peut-être avec les terres agricoles qui sont utilisées. Je crois que c'est presque 3/4 des terres agricoles qui sont utilisées pour nourrir le bétail. Et du coup, si on répartissait mieux peut-être la nourriture.
Et c'était l'argument principal de cet essai que l'écrivain américain Jonathan Safran Foer a publié il y a quelques mois, avec un titre un peu passe-partout, mais enfin qui résume son idée, l'avenir de la planète commence dans son assiette. Et si déjà, en fait, on arrête de manger de la viande, voire de diminuer de moitié, pour les plus irréductibles, la consommation de viande, on fait chacun un énorme effort pour la planète. Du côté des romans, qui a su, parmi les écrivains de tout type de nationalité ou de tout type de genre, qui a su mettre en récit l'effondrement du côté de la fiction ?
Moi, il y a un livre que j'adore et qui a vraiment marqué mon adolescence, et finalement c'est 15 ans plus tard que l'envie d'écrire a ressurgi, mais qui est très lié à cette lecture. Je crois que je t'en avais parlé, mais vous ne l'avez pas lu. C'est Malville de Robert Merle, qui est Robert
Merveilleux
Merle,
roman. Ouais,
merveilleux roman qui parle d'agriculteurs français qui survivent à une attaque atomique. On ne sait pas d'où ça vient, ils sont pile dans les caves du château au moment où ça arrive. Ils réussissent à sauver quelques bêtes qui étaient là, une vache qui accouche, il y a du vin à boire, il y a des œufs, enfin ils ont de quoi subvenir à leurs besoins de manière assez tendue quand même. Et puis finalement ils recréent tout un réseau d'entraide avec un petit village qui a survécu à côté, puis il y a un train qui était sous un tunnel où finalement quelques semaines plus tard ils retrouvent des gens, mais la terre est complètement dévastée sur des kilomètres autour d'eux. Ils sont les seuls survivants à part une vingtaine de personnes sur les 50 kilomètres. Enfin c'est vraiment c'est un monde qui est très 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 noir. Et puis j'adore, il y a une vraie ironie dramatique aussi puisqu'on suit le héros, enfin je vais divulgâcher un peu, mais c'est vrai qu'on suit le héros qui ne s'est jamais fait soigner de l'appendicite et finalement il meurt bêtement de ça après avoir réussi à reconstruire tout un monde, une communauté. Finalement ça rejoint aussi les travaux de Pablo Servigne parce que ça parle beaucoup d'entraide, déjà, où ils survivent parce qu'ils s'entraident et ils troquent avec les autres petits groupes de survivants. Mais c'est vrai que j'avais adoré ce bouquin, en tout cas.
Voici un extrait d'un autre grand roman d'effondrement à la française. À vous de deviner, Bastien, Guillaume, d'où proviennent ces quelques lignes.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Tout cela, dit-il, est notre faute. Les hommes ont libéré les forces terribles que la nature tenait enfermées avec précaution. Ils ont cru s'en rendre maîtres. Ils ont nommé cela le progrès. C'est un progrès accéléré vers la mort. Ils emploient pendant quelque temps ces forces pour construire. Puis un beau jour, parce que les hommes sont des hommes, c'est-à-dire des êtres chez qui le mal domine le bien, parce que le progrès moral de ces hommes est loin d'avoir été aussi rapide que le progrès de leur science, ils tournent vers la destruction. Quel roman cela pourrait provenir ?
Germinal.
C'est le premier Ravage de René Barjavel.
Ah, j'allais dire Barjavel en plus, mais ouais. Parce qu'on... Ouais.
Roman publié en 1943. Je le rappelle, cela, Ravage présente le naufrage d'une société située dans la France de 2052, dans laquelle un jour, suite à une attaque nucléaire entre un empire sud-américain et les États-Unis, l'électricité disparaît et plus aucune machine ne fonctionne. D'une seconde à l'autre, les avions tombent comme des pierres, les habitants sombrent dans le chaos, privés d'eau courante, de lumière, de moyens de déplacement. Le choléra s'installe, les incendies se multiplient et le héros, un jeune agriculteur, mène une troupe de survivants jusqu'en Provence qui va petit à petit établir une civilisation agricole prospère et autosuffisante. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez lu? Non, pas du tout.
Si, pareil, si, plus jeune, quand également. J'étais ado, oui. J'ai lu Ravage, que j'avais beaucoup aimé également, mais il m'a moins marqué que Malville, vu qu'il était tellement futuriste. En fait, je me suis moins identifié dans le monde tel qu'il était décrit. Parce que oui, c'est vrai que c'est très futuriste pour le coup, mais c'est un super roman.
Ouais, c'est assez grandiose.
Qui parle justement de cet exode dont on parle dans le hameau aussi, parce que oui, tout le monde se met à fuir les villes une fois qu'il n'y a plus rien, que les réfrigérateurs, je crois qu'il y a même les cimetières dans Ravage, c'est des réfrigérateurs où on peut aller voir les défunts qui sont encore conservés, qui sont de glace, enfin il y a tout un truc un peu morbide comme ça, pas sur le rapport à la vie aussi, qui est intéressant, mais...
En ce moment, dans les librairies françaises, il y a pléthore de matières sur le sujet. Et ce n'est pas fini. Le 5 mars, les éditions du Seuil publieront « Génération collapsonaute, naviguée par temps d'effondrement », co-signé par Yves Citon, 58 ans, professeur de littérature et de médias à l'Université Paris 8, en compagnie de Jacopo Rasmi, 28 ans, qui a soutenu un doctorat sur notamment les écologies de l'attention. En introduction, les auteurs observent durant l'été 2018, en arpentant les couloirs du métro parisien, on pouvait découvrir l'oiseau rare d'une campagne publicitaire promouvant un livre de sciences humaines, celui de Pablo Servigne, Raphaël Stephens et Gauthier Chapelle, intitulé « Une autre fin du monde est possible ». Durant les mois précédents, le champignon de la fin du monde, des possibilités de vie dans les ruines capitalistes de l'anthropologue Anna Lowenhoek-Tsing, j'espère que je le dis correctement, avait figuré parmi les best-sellers inattendus des éditions de La Découverte. Au tournant 2019, en se promenant dans une librairie Fnac, celle des Halles à Paris, on pouvait voir un rayon consacré à l'effondrement. La plupart portaient un petit label coup de cœur de votre vendeur. On ne compte plus les dossiers de revue, Azimut, Uzbek Erika, Socialter, Critique, Multitude. Puis ensuite Libération, Le Parisien, Paris Match, Le Monde, Mediapart, Les Jours, France Inter, France Culture, France 2, BFM, C8. Ou des chaînes YouTube comme Thinkerview, voire des web-séries documentaires comme Next, tout le monde semble découvrir les discours effondristes avec un mélange d'incrédulité et de fascination. Un portail rassemble en ce moment une centaine de sites ressources, collapsologie.fr, et la collapsologie lance même sa revue trimestrielle qui s'intitule Yggdrasil, dont le nom, et c'est moi qui dis ça, ressemble à un monstre lovecraftien. Yggdrasil, effondrement et renouveau, distribué en kiosque grâce à un financement participatif. L'effondrement cartonne, c'est la conclusion de leur introduction. C'est quelque chose qui vous a traversé en écrivant, puis en rencontrant, vous avez tourné, je crois, le pilote de l'épisode sur la station-service que vous avez montré à Canal+, à travers, je pense, les 2 ans ou 2 ans et demi qu'a duré cette aventure, en termes de toute la fabrication. Vous êtes rendu compte que c'était un sujet qui concernait, c'était l'esprit du moment, en fait.
Au moment où on a commencé à écrire, il n'y avait pas eu toute cette grosse vague qui était là. Ça nous a même fait peur quand on était sur la fin du tournage. On s'est dit, ah zut, enfin, on va être noyé finalement dans cet amas d'informations sur le sujet. Mais finalement, enfin, c'est ce qu'on veut aussi, c'est que les gens sachent. Donc,
qu'il y ait le plus de contenu possible pour participer justement au débat, en fait. Enfin, on provoquait le débat, en tout cas. Avec,
mais c'est vrai qu'au début, on ne s'est pas rendu compte que ça allait être autant d'actualité oui. quand on a commencé le travail dessus. C'est plus le sujet qui nous intéresse.
Mais tant mieux, en fait. Ouais. Limite, c'est ce qu'on souhaitait. Enfin,
on a peur qu'il y ait une overdose aussi des gens par rapport à toutes ces informations. Enfin, il y en a beaucoup qui font... on parle d'éco-anxiété. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font un rejet. Après, on a nos théories là-dessus. On pense que le rejet, c'est un peu la première étape de l'acceptation, comme pour le deuil. Donc... pourquoi pas.
Lundi 23 décembre 1975. Au-delà des étoiles, alentour de lune, je connais une planète, je connais une planète où tout le monde est bête. Les êtres y sont méchants, corrompus et violents. Si l'amour n'a plus cours, les armes tordent nuit et jour, dans tous les pays à la fois. C'est la terre, son nom, je crois. Au-delà des transports, au-delà des morts, je connais une terre, je connais une terre où tout le monde meurt. Les hommes s'allongent par grappes au milieu des boulevards. Ils ne claquent pas les dents, ils mordent de la mort jusqu'au sang. Ça les délivre du mal, ça les soulage de la peur. De leur peur. Au-delà du mystère, je connais une planète, je connais une planète où tout le monde est heureux. Les êtres y vivent nus, on ne se parle plus, d'ailleurs on ne sait jamais parler. Tout se passe par les yeux, tout se passe par la pensée, et tout là-bas. Au-delà, c'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi.
Alentour de la Lune, chanson titre de l'album publié en 1976 par Pierre Vassiliou, qui écrit « Je connais une terre où tout le monde meurt, les hommes s'allongent par grappes au milieu des boulevards. » Un désespoir qui anticipait avec amertume notre possible effondrement contemporain. Mis en scène aujourd'hui par mes invités Bastien Huguetto et Guillaume Desjardins dans leur série L'Effondrement, disponible en replay sur Canal+, et par fragments sur la chaîne YouTube de leur collectif Les Parasites. Y voit-on notre futur ?
Excusez-moi, vous n'avez plus du tout de tampon hygiénique ?
Si vous n'en avez pas trouvé un rayon, c'est qu'il n'y en a plus, monsieur. Je suis désolé, on a eu des petits problèmes de livraison ces derniers jours. Mais vous savez, c'est à cause des pénuries d'essence, en fait. Merci.
Et par rapport à la pâte à tartiner, c'est...
Ah non, mais ça, c'est parti encore plus vite, ça.
Merci.
Merci.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Dans Génération Collapsonaute, Yves Citon et Jacopo Rasmi citent le plus audacieux, le plus rigoureux, le plus lucide et le plus inspiré de nos théoriciens contemporains de la littérature, Pierre Bayard, qui a établi sur d'innombrables preuves
à quel point certaines fictions du passé avaient prédit des catastrophes à venir. Le naufrage du Titanic, l'attaque contre le World Trade Center, le tremblement de terre qui a ravagé Haïti en 2010. Pierre Bayard nous sensibilise à la présence d'anticipations dormantes au sein des fictions qui se publient sans cesse autour de nous. Il propose même de financer cette nouvelle discipline du savoir pour repérer collectivement quels sont les auteurs et quels sont les textes les plus susceptibles de receler des anticipations dormantes, de faire advenir des futurs possibles, ce qu'il appelle aussi des prédifictions. Est-ce que l'effondrement, c'est une prédifiction en quelque sorte ?
On n'espère pas.
Oui, on n'espère pas, mais après on imagine, on a essayé d'être au plus près de la réalité, en tout cas en partant du postulat que tout d'un coup, imaginons qu'il n'y a plus de pétrole en France, les importations sont gelées, ok, qu'est-ce qui se passe ? Et à partir de là, oui, ça pourrait être de la prédiction.
Oui, il y a des scènes de panique aux stations-service.
Ça, il n'y a plus d'approvisionnement supermarché, les gens du coup fuient les villes, les riches s'échappent pour se mettre en sécurité le temps que ça passe ou pas.
Des personnes outrepassent leur pouvoir.
Exactement, les gens délaissent leurs obligations, que ce soit les services publics ou même les aides-soignants dans les maisons de retraite. Enfin, chacun revoit finalement ses priorités, donc on pense que ça se passerait comme ça.
Citons Erasmus, cite aussi l'écrivain français Dominique Jeanvray, via un passage qui devrait vous plaire. Le fictionnaire, donc l'auteur de prédifiction, le fictionnaire est optimiste. Jamais il ne sombre dans les fosses de l'histoire. Il est informé du capitalisme et de ses méthodes. Il ne s'en étonne pas. Il joue avec, il connaît et se réjouit de vivre ce moment historique qui restera comme le moment d'une immense foison de pensées, celles qui permettront à l'homme de sortir de sa condition. Il pense l'après, il le pense et il le crée.
Est-ce que tu es optimiste, Guillaume ?
Non, c'est ça, ouais, que j'ai... quand on a écrit, de part surtout le livre L'Entraide, l'autre loi de la jungle, qui nous a mis en garde sur attention à ne pas reproduire justement les récits qui font culture et qui font qu'on va privilégier le chacun pour soi à l'entraide. Mais quelque part, si on ne parlait, enfin, c'était un vrai défi pour l'écriture de se dire comment on fait des histoires qui restent accrochantes pour les spectateurs sans mettre à aucun moment du conflit créé par les humains qui vont vouloir s'en sortir par eux-mêmes ou qui vont se privilégier eux-mêmes. Enfin, du coup, ouais,
même s'il y a des personnages qui ne pensent qu'à eux. Il y a l'épisode du hameau
c'est une façon de
ce conflit-là.
Mais quelque part, on s'est rassuré sur ça en se disant que c'était... On est obligé pour parler... Enfin, quelque part, on va être obligé pour parler d'entraide de parler de chacun pour soi. Mm-hmm. Et du coup, de montrer en quoi chacun pour soi est négatif et vers où ça nous entraîne.
Mais c'est vrai qu'on est assez pessimiste, nous, finalement, par rapport à la vision du monde qu'on a. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ça, encore une fois. Mais on ne voit pas de raison d'espérer une amélioration à l'échelle planétaire avec l'envergure qui serait nécessaire. Enfin, il n'y a rien qui pointe le bout de son nez, en tout cas, rien de concret.
Dans l'épisode de la maison de retraite, le personnage que vous incarnez, Bastien, personnage dont je ne dirai rien, doit rassembler ses affaires en quatrième vitesse dans un sac à dos. Et dans la précipitation, il n'oublie pas d'emporter le livre qu'il était en train de lire. C'est quoi ce livre-là ?
Très bonne question. On n'a qu'à dire qu'il était en train de lire Malville.
Mais c'est pas le cas.
Non, je crois que c'était. J'ai pas. Je voulais ramener des livres perso, mais dans l'effervescence du tournage, j'ai pas pu. Donc, je crois que c'était un accessoire de déco, et j'ai l'impression que c'était peut-être Germinal justement.
Vous parliez un peu plus tôt.
Oui, qui l'emporte. Mais je ne sais pas si vous l'avez noté aussi, mais il emporte son nounours. Il emporte mon nounours nounoutier. Écoute, nounoutier, si tu nous entends.
Il nous écoute.
Oui, ouais, si tu nous écoutes, je suis sûr que c'est le cas. Mon nounours depuis 30 ans, fidèle au poste, qui dort dans les placards en attendant de servir fidèlement pour un tournage. Donc il emporte, oui, Germinal et nounoutier.
Mais vous croyez que quelqu'un qui vivrait la situation du personnage, un vrai dilemme moral par rapport à sa profession d'interne dans une maison de retraite, est-ce qu'il lirait lui-même le récit qui doublerait ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire un récit apocalyptique ?
Je pense pas,
mais après il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées en maison de retraite, peut-être, mais...
Mais qu'est-ce qu'on lit justement, c'est une question qui est ouverte, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lire dans un moment comme celui-ci ? Au point où on ne peut pas se passer du livre parce qu'on sait qu'il va nous consoler.
J'ai l'impression peut-être qu'on serait plus sur des lectures utiles comment apprendre à cultiver, comment apprendre à fabriquer une centrale hydraulique, enfin des choses qui nous donnent du pouvoir, quoi, qu'on puisse utiliser avec nos mains.
Est-ce que le roman serait superflu dans des moments aussi troublés ?
Peut-être dans un premier temps, le temps d'adaptation, mais après pour reconstruire un monde, non, la culture c'est primordial, enfin c'est ce qui fait qu'on est humain finalement.
Parmi les critiques des récits de l'effondrement, il y a celle-ci. Je parle des récits de l'effondrement du genre, hein, pas de votre série à vous. La collapsologie est un plat vegan de luxe qui se mange entre petits bourgeois privilégiés. On peut citer par exemple l'anthropologue Pierre Charbonnier qui, dans la revue du Crieur, écrivait en juin 2019 « Si tout le monde est susceptible de craindre pour son avenir et celui des siens, seuls ceux qui, par héritage ou après avoir tout plaqué, ont accès à un domaine agricole et au savoir permettant de le mettre à profit, pourront s'ajuster aux nouvelles conditions. »
Je partage l'idée que c'est des réflexions de privilégiés quelque part, parce qu'il faut, et encore plus nous qui avons choisi une voie artistique où justement on prend le temps de réfléchir ensemble, de philosopher et tout, de prendre du recul sur notre société. Et c'est pas... Ouais, enfin, je consens qu'on est privilégié pour ça, donc c'est peut-être sur la première partie, il parle de ça. Mais n'empêche que c'est des enjeux qui concernent tout le monde, mais on peut pas reprocher à quelqu'un qui n'a pas le temps de réfléchir à ça, parce qu'il faut qu'il ait l'argent suffisant pour finir le mois.
De pas vouloir acquérir les savoirs qui lui permettront de survivre par la suite, je suis tout à fait d'accord
avec vous. Parce qu'il a pas... Enfin, ouais, en fait, les besoins vitaux sont les premiers à remplir avant de pouvoir justement... aller au-delà, mais les terres aujourd'hui, elles sont mortes. Mmh. On cultive sur des terres qui ont été complètement appauvries. Donc, si on n'a plus, si on imagine le scénario comme dans notre effondrement, qui est assez brutal et où il n'y a plus d'énergie fossile et donc plus d'engrais chimiques ou quoi que ce soit pour faire pousser dans nos champs, comment on fait ? Donc, même si on a des terres. Mmh. On fait pousser quoi dedans, en fait?
Ouais, moi, j'en sais rien, mais si je me retrouvais en situation, je serais mal à vrai dire.
Ouais, et puis même si on a une ferme où aller se réfugier, qui va empêcher tout le monde d'y aller aussi? Et c'est là que ça fait peur. Il y a des gens qui pensent à s'armer et tout, du coup, ouais.
Je reviens une seconde fois vers le roman Ravage de Barjavel, la nouvelle société agricole imaginée par les survivants d'un cataclysme international. Une des premières mesures adoptées fut la destruction des livres. Il a organisé des équipes de recherche qui fouillent les ruines tout au long de l'année. Les livres trouvés pendant les 12 mois sont brûlés solennellement au soir du dernier jour de printemps sur les places des villages. À la lueur des flammes, les chefs de village expliquent aux jeunes gens rassemblés qu'ils brûlent là l'esprit même du mal. Pour faciliter l'enseignement de l'écriture, François, c'est le héros, a fait conserver quelques livres de poésie. « Ce sont, dit-il, des livres qui ne furent dangereux qu'à leurs auteurs. L'art de l'écriture est réservé à la classe privilégiée des chefs de village. L'écriture permet la spéculation de la pensée, le développement de raisonnement, l'envol des théories, la multiplication des erreurs. François tient à ce que son peuple reste attaché aux solides réalités. » C'est un prolongement d'une des questions antérieures. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que pourrait être la place des livres dans un futur dystopique immédiat ? Qu'est-ce qu'on en ferait si tout s'écroulait ?
Moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'on aurait réussi à subvenir à nos besoins primaires, on les garderait précieusement. Déjà parce qu'on ne pourrait pas en imprimer de nouveau aussi facilement. Donc, ça deviendrait finalement des... On se créerait des bibliothèques, au contraire. Enfin, je ne sais pas, mais dans... C'est vrai que... Ce n'est pas les choses que j'emporterais avec moi pour survivre, en tout cas...
Si, ça peut allumer un feu quand même.
Oui, ça peut allumer un feu, c'est vrai.
Les mauvais livres. Ouais. Les livres inutiles.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il faudrait s'en servir comme on essaye de s'en servir aujourd'hui, c'est-à-dire pour essayer de ne pas reproduire les erreurs du passé. Mais en fait, j'ai l'impression que même en connaissant l'histoire, ça reste cyclique et c'est ça qui est flippant. J'ai l'impression qu'on a été à l'école, on nous a appris l'histoire pour pas qu'elle se répète vraiment. Enfin, moi, j'en ai ce souvenir. Et en fait, on a plein de signes aujourd'hui qui montrent qu'on est dans un glissement quand même qui ne va pas dans la bonne direction. Et pourtant, on n'arrive pas à... Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour éviter ce cycle ? Et ouais, moi, ça me fait peur.
les tensions géopolitiques se cristallisent tout autour de la planète. Il n'y a pas l'unité et l'effort de guerre, c'est un terme qu'on a pas mal employé. C'est l'idée qu'on se fait de ce qu'il faudrait mettre en place, comme il y a eu les plans Marshall, la reconstruction, tout ça. Enfin, quand
oui,
tout
d'un coup,
il y a des véritables, des montagnes d'argent qui sont engagées pour des vraies reconstructions, des vraies transitions. On imagine que c'est ça qu'il faudrait, mais à l'échelle mondiale, pour créer un monde qui soit encore...
qui soit durable.
Ouais, et vivable, même dans 100, 150 ans. Enfin, c'est de ça dont on parle, parce que nous, on
mais
pense...
Mais c'est pas rentable.
Oui, c'est pas rentable. Enfin, c'est vraiment la schizophrénie du capitalisme aujourd'hui, quoi. Mais parce que nous, on pense qu'on est déjà en train de vivre, finalement, un effondrement du système, mais que c'est plus une lente érosion. Nous, dans la série, on a besoin de faire en sorte que tout s'effondre d'un coup pour que ce soit intéressant scénaristiquement, alors qu'on considère vraiment déjà vivre un effondrement. On le voit, enfin, tous les gens qui nous l'écoutent ont vu le monde changer depuis qu'ils sont enfants. On le voit, on voit les écosystèmes s'effondrer, on voit le plastique envahir les océans, les zones mortes où il n'y a plus d'oxygène dans l'eau. Enfin, on voit le réchauffement climatique, la montée des eaux. C'est vraiment les catastrophes. On en parlait tout à l'heure, l'Australie. On voit tout qui s'empire.
Les ressources qui s'épuisent.
Ressources qui s'épuisent, oui, bien sûr. Et les terres rares, tout ça. Et oui, et autour de ça, on voit tous les pays qui sont en train de se refermer les uns sur les autres, de s'accaparer les ressources, s'accaparer les sables bitumineux, l'eau. Enfin, c'est vraiment... ça fait peur.
C'est là où c'est cyclique, c'est que les privilégiés dont on fait partie ne voudront jamais abandonner leurs privilèges. Et on fait partie du problème. Du coup, c'est ça, il faut
donc
accepter.
On est mal barré.
Ouais, il faut accepter tous collectivement de perdre nos privilèges et d'arrêter de faire la guerre aux autres pour les conserver.
Enfin, tout s'est effondré. Il n'y a plus nulle part où aller. Personne n'a été surpris.
Tout s'est effondré, il n'y a plus nulle part où aller. C'est avec ces mots que s'ouvre cette chanson de Rameau, trentenaire parisien à tête de toucan et adepte de pop primitive et des écrits d'Alain Damasio qui imaginait en 2018, avec joie, un retour à l'état sauvage après l'apocalypse, titre de la chanson « À nouveau sauvage ». Mes invités du jour, Bastien Huguetto et Guillaume Desjardins, créateurs avec leur compère Jérémy Bernard de la série télé « L'effondrement », ne semblent pas partis, a priori, pour écrire une saison 2, qui aurait pu, dommage, nous montrer la renaissance d'une civilisation ainsi que de nouveaux modèles concrets de société basés sur l'entraide. Néanmoins, avant de les laisser s'en aller, quitter nos studios pour écrire ce qui pourrait bien devenir leur premier long métrage de cinéma sur un sujet encore confidentiel, j'ai envie, là, de leur demander leur avis sur une expérience exposée dans le livre « Génération collapsonaute » qui, je le rappelle, sortira en mars. Cette expérience, c'est un travail de recherche mené au Brésil ou dans l'Arctique, côté norvégien, par l'écrivaine Sandrine Texido et le plasticien Aurélien Gamboni autour de la célèbre nouvelle d'Edgar Allan Poe, Une descente dans le Maelstrom, qui date de 1841. Si vous ne l'avez pas lu... C'est le récit d'un voyage en barque aux îles norvégiennes de Lofoten, lieu de formation du Maelstrom, du célèbre tourbillon dont un improbable survivant décrit l'horreur. Appâté par le gain d'une hypothétique pêche miraculeuse, le marin et ses deux frères sont pris dans l'impitoyable siphon. Edgar Allan Poe raconte la lente descente en spirale vers le fond, donc une scène d'effondrement au ralenti, ainsi que l'inattendu mélange de bonne chance et d'intelligence qui a permis au narrateur d'échapper à la mort, contrairement à ses frangins. L'idée des deux artistes, Texido et Gamboni, c'est que cette nouvelle d'Edgar Allan Poe est un récit-outil, une métaphore susceptible de nous équiper pour le futur. Le narrateur de cette histoire n'a aucune prise à laquelle s'accrocher. Tout tourne vers un engloutissement sans espoir de survie. Mais, dans cette situation d'extrême vulnérabilité, le condamnant à plonger dans le chaos aquatique, son salut vient de l'ouverture de sa sensibilité et l'acuité de son attention qui lui font remarquer que tous les objets dans le tourbillon ne sombrent pas à la même vitesse. Le narrateur attache son corps à un tonneau vide. Le récit-outil lui apprend, et nous avec, à tromper la mort. Il ne s'agit pas d'éviter le tourbillon. Il est trop tard pour cela. La soif du profit nous a attirés trop longtemps dans ces eaux poissonneuses. Aucun retour en arrière n'est possible. Mais il faut voir le tonneau. Bastien, Guillaume, quels sont vos tonneaux, métaphoriquement ?
On est conscient que, oui, les histoires sont des outils dans le sens où nous font vivre par procuration une situation et en plus émotionnellement qui permet peut-être de savoir ou de se préparer à si jamais on devait la vivre vraiment, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait ? Mais alors, quels sont nos tonneaux qui permettent de se raccrocher ? Moi, justement, c'est par exemple l'épisode du hameau, c'est de montrer qu'il faut un moment qu'on arrive à se faire confiance les uns les autres, parce que si c'est la peur qui l'emporte, on n'y arrivera pas.
Ouais.
Donc il reste de l'espoir, mais c'est l'espoir des liens humains, finalement. On croit encore en l'homme et en sa capacité d'entraide et d'adaptation, mais à des échelles locales, peut-être plus.
Ouais, non, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas mis beaucoup de tonneaux. Mais
dans la série, en effet, il n'y en a pas.
Ouais, même l'épisode final est même très, très désespérant dans l'idée qu'on montre qu'il y a des lanceurs d'alerte quelque part. Qui ont lieu aujourd'hui. Et pourtant, nous, dans notre série, l'effondrement a lieu, donc ils n'auront pas réussi à lancer l'alerte suffisamment fort.
C'est les riches qui s'en sortent dans notre série.
Oui, c'est les riches qui s'en sortent.
Oui, c'est une série de droite, hein. Il faut quand même le dire.
Non, mais après, on pense, c'est aussi horrible, mais que si le système tel qu'il est aujourd'hui vraiment commençait à craindre un max, il y aurait peut-être un 1% ou 0,1% de la population qui serait prêt à prendre des mesures draconiennes à l'échelle planétaire. Pour s'en sortir un peu du style à l'armée des douze singes, ce genre de choses. Enfin, pourquoi pas, mais ça reste une solution. Je sais pas si Mark Zuckerberg nous entend, je plaisante bien sûr.
Il nous écoute, comme votre nounours,
nounoutier. C'est horrible, mais oui, comme nounoutier. Non, mais
je crois qu'ils sont ensemble dans la même pièce, qui est un peu bizarre d'ailleurs.
C'est ça, c'est peut-être nounoutier qui va répandre un virus pour éradiquer la plupart de la population mondiale pour pouvoir vivre tranquille, utiliser des yachts et continuer de prendre son jet.
Thank you, nounoutier.
Salopard nounoutier, je le savais, il nous trahit.
J'aimerais pour terminer vous citer un extrait d'un ouvrage à paraître le 6 février aux éditions Léo Cher, intitulé « Kaléidoscope 2 », un recueil de textes sur des sujets très variés, du philosophe et romancier Tristan Garcia, l'auteur entre autres de « 7 » ou de « La meilleure part des hommes ». Nous ne sommes pas les premiers à nous sentir les derniers. Une fois balayée l'illusion d'être les premiers à avoir conscience de venir trop tard, que reste-t-il ? Nous ne savons pas encore ce qui, de nous, sera bientôt terminé, ce qui, aux yeux de ceux qui viendront après, semblera du passé. Donc, nous essayons par anticipation de ne pas nous identifier à la part bientôt morte de notre monde. Est-ce l'industrialisation, l'idéologie du progrès, la civilisation thermique, le capitalisme, le règne de l'Europe blanche, le patriarcat ? Chacun tente à tâtons de ne pas engager son existence dans ce qui lui semble, par un pari de l'esprit, la partie déjà nécrosée de notre mode de vie. Ce n'est pas seulement par une pulsion morbide d'anticipation de notre anéantissement pour hâter l'exécution du condamné à mort dont l'attente est devenue insupportable, mais enfin de prendre notre place dans l'histoire qu'écriront les vivants de demain.
C'est plus encourageant pour moi d'avoir l'idée de construire quelque chose plutôt que de déconstruire. Et pourtant, je pense qu'il y a peut-être... les deux sont peut-être nécessaires. Enfin, je sais pas.
Ouais, c'est drôle parce que sur votre page YouTube personnelle, Guillaume, la première phrase de la première vidéo qui se lance en ce moment... C'est celle-ci.
Le secret de la révolution n'est pas de vouloir détruire l'ancien monde, mais de construire le nouveau.
Ah oui, c'est la phrase de fin de
Ferdinand fait la Vélorussion, je crois.
Une autre série dont vous êtes les auteurs.
Oui, c'est une mini-série.
C'est une mini-série de 3 épisodes qu'on a réalisée il y a 4-5 ans maintenant. Oui, c'est un personnage qu'on imaginait un peu en décalage justement avec le monde pour pointer des absurdités comme ça. Il y avait toujours un cow-boy de fiction qui apparaissait à la fin. Un peu, c'était un clin d'œil aux frères Cohen et à Big Lebowski. Et qui faisait une morale un peu absurde. Mais finalement, celle-ci, on l'aimait beaucoup, oui.
Ouais, mais peut-être que maintenant, je la remets en perspective et que je me dis que c'est une idée rassurante, pour moi en tout cas, de me dire que qu'on n'a pas besoin de se battre pour détruire, mais qu'il vaut mieux utiliser son énergie à construire. Mais
c'est presque une utopie. Finalement.
Mais en fait, ouais. Est-ce que les deux sont pas nécessaires? J'ai l'impression qu'il faut arrêter justement avec ces idées qu'il y aurait un combat. C'est souvent de notre expérience, quand on voit les gens autour de nous qui s'engagent, le premier réflexe souvent c'est d'essayer de trouver l'engagement le plus qui va faire changer le monde du jour au lendemain, quoi. Et du coup, de critiquer les autres combats en disant « Mais non, faut pas faire ça, faut le faire comme ça et tout. » Alors que, bah non, toutes les initiatives... Enfin, personne ne sait comment on va arriver à changer. Et c'est sûrement la masse aussi des combats qui feront la victoire. Faut espérer.
Merci pour ce message d'espoir. Merci beaucoup, Bastien Huguetto. Merci beaucoup, Guillaume Desjardins.
Merci.
Merci pour l'invitation.
La Nova Bookbox, c'est déjà fini. Les 8 épisodes de la série L'Effondrement sont visibles en intégralité sur Canal Play. Les premiers épisodes sont également dispo sur la chaîne YouTube du collectif Les Parasites. Cette émission a été réalisée par Sullivan Clabeau, programmation musicale Michael Liot. La semaine prochaine, joyeux hasard des calendriers, je recevrai 2 cinéastes qui ont été cités par mes invités du jour au tout début de cette émission. Citée comme l'une des références immédiates et primordiales de leur série télé. J'aurai la joie de m'entretenir avec Arnaud et Jean-Marie Larieux, les auteurs sensuels et mystérieux de 21 nuits avec Patty, de Peindre ou faire l'amour, ou des Derniers jours du monde. Si vous n'en pouvez plus d'attendre cette conversation, sachez que les frangins m'ont détaillé en préambule de cette future émission leur rapport à l'onirisme, la place qu'occupe le rêve dans leur œuvre et dans leur imaginaire de cinéphile. Cette interview est déjà en ligne sur nova.fr, titre « Des rêves d'une obscure clarté ». Je vous laisse
chers auditeurs, chères auditrices, avec une toute dernière chanson, toute petite. Enfin, ce n'est pas vraiment une chanson, plutôt un conte musical interprété par l'américaine Laurie Anderson. Cela s'intitule « The End of the World ». Bon dimanche, à la semaine prochaine, dès midi sur Nova. Et n'oubliez pas, comme dit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
This evening, I'll be reading from a book I just finished. And since a lot of it is about the future, I'm going to start more or less on the last page and tell you about my grandmother. Now, she was a Southern Baptist holy roller, and she had a very clear idea about the future and of how the world would end.
In fire.
Like in Revelations. Now, when I was 10, my grandmother told me the world would end in a year. So I spent the whole year praying and reading the Bible and alienating all my friends and relatives. And finally, the big day came, and absolutely nothing happened. Just another day.
Nova Book Box, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.